France Inter.
Aujourd'hui, carottes de glace, les archives du climat. Raconté par
Amaël Landais, glaciologue et climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement.
Et Mathieu Cassado, aussi glaciologue et climatologue dans le même laboratoire.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Dans l'immensité blanche et glacée de l'Antarctique, un groupe de scientifiques vient d'atteindre une profondeur historique de 2800 mètres sous la surface du continent blanc, presque 3 km. Et là, ils ont pu mettre au jour un véritable trésor avec des échantillons de glace datant de plus d'1,2 million d'années. Le précédent record en 2004 avait permis de remonter sur les 800 000 dernières années. Le campement établi près du site connu sous le nom de Petit Dôme C ressemble à une scène d'un autre monde. Dans ce paysage dominé par les vents glaciales et les températures moyennes de moins 35 degrés pendant les étés polaires. La patience et la persévérance des chercheurs sont mises à rude épreuve. Ils travaillent jour après jour, leurs visages à peine visibles derrière leurs écharpes gelées, leurs mouvements ralentis mais déterminés par les couches épaisses de vêtements. Chaque tube de glace extrait est manié avec une délicate précaution, comme s'il s'agissait d'un vestige d'une civilisation ancienne. Ces cylindres glacés ne sont pas de simples morceaux d'eau gelée. Ils sont des fenêtres sur le passé, emprisonnant des bulles d'air qui composaient autrefois l'atmosphère de la Terre. À travers eux, les climatologues peuvent voyager dans le temps pour explorer les anciens climats de notre planète. En utilisant des techniques sophistiquées pour mesurer les poussières, les sulfates des éruptions volcaniques et même les anomalies du champ magnétique terrestre capturé dans la glace, ils peuvent lire les chapitres oubliés de l'histoire climatique de la Terre. Tandis que les carottes de glace sont analysées, chaque donnée contribue à une histoire plus large, celle de l'évolution du climat. Ces informations combinées à des relevés provenant de carottes de sédiments marins aident donc à peindre un tableau plus complet des températures passées sur Terre et dans les océans. Les scientifiques viennent donc de récupérer 1,2 million d'années d'enregistrement continu dans la glace, mais ils en ont peut-être plus, beaucoup plus. Les 200 mètres les plus profonds du forage contiendraient des archives de plusieurs millions d'années. Les glaciologues ont du travail en perspective, car les plus vieilles glaces de l'Antarctique auraient jusqu'à 34 millions d'années. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
La glace s'entasse en Antarctique depuis des milliers d'années. Il suffit de creuser un trou, d'extraire un cylindre de glace, une carotte, pour remonter un précieux témoin de ce qui se passait ici au moment où s'est formée la glace. On a commencé par emporter par avion vers les laboratoires des carottes de glace peu profondes, pour étudier d'abord les curieuses propriétés de ce matériau assez exceptionnel qu'est la glace, mais en réalité ce n'est pas comme matériau que la glace de l'Antarctique est tellement passionnante. C'est comme une sorte de livre où s'est inscrite depuis 50 000 ans l'histoire de la Terre. Les glaciologues veulent déchiffrer tous les chapitres de ce livre. Ils ont tous le même rêve, creuser jusqu'au fond de l'Antarctique pour extraire une carotte de glace vieille de 40 000 ans ou plus.
Et le rêve a largement été accompli depuis, puisque là nous sommes en 1963, extrait d'un documentaire Visa pour l'avenir sur la radio-télévision française à l'époque. Amaël Landais et Mathieu Cassado, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue au micro de la Terre au carré. Cette campagne de forage qui a atteint donc de la glace datant de plus d'un million d'années, c'est l'accomplissement historique de la quatrième campagne de terrain de ce projet européen, Beyond Epica Oldest Ice, sur lequel d'ailleurs vous travaillez tous les deux. Parvenir à forer à presque 3 km de profondeur, Amaël Landais, c'est une première, c'est du jamais vu ?
Non, forer jusqu'à 3 km de profondeur, ce n'est pas une première. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de ce forage qui avait été achevé en 2004 à la station franco-italienne Concordia, le forage Epica Dôme C, qui avait, lui, une profondeur de plus de 3 km de sang.
Ouais.
Donc, forer jusqu'à plus de 3 km, on savait qu'on en était capable.
Ouais.
Après, le temps que ça prend... C'est toujours une question.
C'est le voyage temporel qui est
Mais c'est le voyage
long,
temporel, exactement. Là, il y a eu tout un travail en amont du forage pour vraiment trouver l'endroit un peu idéal sur lequel on va pouvoir remonter beaucoup plus loin dans le temps sur la même profondeur.
Ouais.
Et là, vous voyez, 2,8 km et on est à certainement plus de 1,2 million d'années.
Ouais. Tout à l'heure, quand je disais que les plus vieilles glaces de l'Antarctique auraient jusqu'à 34 millions d'années, je vous ai vu réagir. Pourquoi exactement ?
Je ne suis pas sûre qu'on va vous dire dans quelques années que là, on a de la glace de 34 millions d'années, puisqu'effectivement, la glace, c'est un matériau qui flue, en fait. Donc la glace la plus ancienne, elle s'est déjà déplacée et elle est repartie à l'océan, malheureusement.
En tout cas, vous avez cette carotte extraordinaire de plus d'1,2 million d'années. C'est donc, Mathieu Cassado, l'archive climatique continue, hein, c'est ça qui est important, la plus longue issue des carottes de glace, là, pour le moment. Hein.
Exactement, puisqu'il y a aussi des archives récupérées par des équipes américaines où ils vont pouvoir obtenir des morceaux de glace qui vont avoir plusieurs millions d'années, mais ce n'est pas des archives continues. C'est-à-dire que chaque morceau de glace doit être daté indépendamment et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre deux morceaux de glace, ce qui, sur l'interprétation, des fois peut poser des problèmes, puisque en fait, si on a juste une toute petite image, finalement, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre les deux.
Mais c'est quand même intéressant pour la climatologie ?
Tout à fait, puisqu'on se rend compte que finalement, bah, par exemple, il y a beaucoup de questions sur à quel point le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère était très haut il y a plusieurs millions d'années.
Oui.
Et pour le moment, on n'a pas encore trouvé des échantillons de glace avec des valeurs aussi hautes que ce qu'on a maintenant. On trouve 280, 300 ppm. Donc voilà, on n'a pas encore trouvé des valeurs aussi hautes qu'on s'attendait pour expliquer potentiellement des mécanismes du climat. Du passé, oui.
Ouais, PPM, pour ceux qui n'ont pas la
science. Partie par million.
Partie par million, pour ceux qui n'ont pas la science de la climatologie. Amaël Landais, cette glace d'1,2 million d'années, c'est comme une photographie, au fond. C'est un aperçu direct des températures atmosphériques et des concentrations donc, en gaz à effet de serre au cours de ces derniers 1,2
oui,
million d'années.
C'est comme un livre, comme l'extrait que vous avez montré, c'est comme ça, un livre. On va remonter de façon continue toute l'histoire depuis 1,2 million d'années, où on va avoir à la fois les variations de température à partir de la mesure des isotopes de l'eau, donc les espèces légères et lourdes de la molécule d'eau, et puis toute la concentration de l'atmosphère à partir des petites bulles qui sont piégées, où on va reconstruire la concentration en dioxyde de carbone et puis d'autres gaz à effet de serre, comme le méthane, par exemple, au cours de cette histoire de 1,2 million d'années et plus, j'espère.
Oui, c'est ça. On pourrait aller jusqu'où, à votre avis, alors ?
Ah non, je ne sais pas. Je ne fais pas de pari, mais effectivement, comme vous l'avez dit...
L'idée, c'était d'aller à 1,5
million d'années. Ici, donc, on a parlé, on a une carotte de 2,8 km. À 2488 mètres, on est à 1,2 million d'années, ça on en est sûr.
Ouais.
Mais vous voyez qu'il reste encore, il reste encore
de
plus de 300 mètres en dessous.
C'est ça.
Mais ça, on ne peut pas vous dire tout de suite la date. On a vraiment besoin de faire les analyses au laboratoire. Donc actuellement, cette carotte de glace, elle est en train de rentrer en Europe. Elle est sur le bateau, bien gardée, à moins 50 degrés, bien précieusement.
Ouais.
Et après, nous allons faire les analyses et on pourra vous dire. Oui.
Ouais. Mathieu Cassado, on va respecter le temps de la science, évidemment, avec vous. Quelle est l'ambition de ce projet donc, derrière ces forages de carottes de glace qui permettent donc de remonter de plus en plus loin dans le temps. C'est quoi l'idée ou la question à laquelle vous souhaitez avoir une réponse ?
Une des premières questions qui est un peu motivée de remonter, c'est pas seulement d'aller à chaque fois un peu plus loin, c'est qu'on s'est rendu compte en utilisant les carottes sédimentaires qui, elles, permettent de remonter plus loin que les carottes de glace, que le rythme auquel les cycles glaciaires-interglaciaires se succédaient était plus rapide il y a 1,2-1,5 million d'années, c'est-à-dire c'était tous les 40 000 ans, alors que maintenant c'est plutôt tous les 100 000 ans. Et donc il y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites, pourquoi on a ce rythme qui a changé finalement au cours du dernier million et demi d'années. Une des hypothèses potentiellement viendrait des compositions en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On peut avoir des idées des compositions de gaz à effet de serre, dans l'atmosphère en utilisant les carottes de sédiments, mais il n'y a pas d'archives directes, alors que dans les carottes de glace, on a ces petites bulles d'air. Donc c'était vraiment une des motivations pour se dire, si on arrive à avoir une carotte de glace aussi vieille, on aura cette information, et que finalement, on n'a pas encore eu aussi, même avec ces morceaux de glace très vieux qui ont été retrouvés, puisque finalement, on a juste à chaque fois ces petites images, et on ne sait pas ce qui se passe entre deux images. Donc là, on espère qu'avec cette nouvelle carotte, on aura vraiment un film continu, et on pourra raconter l'histoire complète.
Donc, Amaël Landais, c'est vraiment cette transition mystérieuse que vous souhaitiez mieux comprendre à travers ces carottages de glace ?
Oui, tout à fait. C'est une des motivations, c'est la motivation première du projet Beyond Epica. Et En fait, c'était même une motivation générale en fait, dans la communauté internationale des carottes de glace. Donc, il y a plusieurs pays ou groupes de pays qui avaient cet objectif depuis plus de 10 ans de forer une carotte qui couvre 1,5 million d'années pour répondre à cette question du changement de la périodicité des cycles glaciaires-interglaciaires, donc des périodes froides et des périodes chaudes. Et pour l'instant, c'est l'Europe qui a effectivement mis à jour la première archive qui va permettre de répondre à cette question.
Vous avez déjà les données sur le climat qu'il faisait il y a 1,2 million d'années ou c'est encore trop tôt par rapport au forage ?
Alors, nous avons déjà des données, comme l'a dit Mathieu Cassado, sur, à partir des sédiments marins, qui nous donnent déjà des informations sur le niveau des mers et la température de l'océan. Et effectivement, sur le terrain, donc l'équipe dont vous avez parlé, ils ont été capables de faire des mesures de la composition isotopique, donc directement des mesures sur les molécules d'eau dans la glace, pour avoir une première estimation des variations de température sur toute la profondeur de cette carotte de glace, donc jusqu'à 1,2 million d'années. Donc on voit déjà ces cycles glaciaires-interglaciaires enregistrés dans la carotte de glace avant même qu'elle ne soit revenue au laboratoire.
Et Mathieu Cassado, s'il fallait donner une image par rapport à aujourd'hui du climat il y a 1,2 million d'années, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour avoir là aussi une photographie de l'époque ?
Le 20 février, exactement.
Il y a 1,2 million d'années.
On ne pourra pas vous dire aussi précisément. Allez. Mais finalement, on est encore dans des situations un peu difficiles à décrire puisqu'on va avoir un ou deux points de données qui vont représenter des moyennes de plusieurs centaines, voire peut-être de milliers d'années. Mmh. Donc il va falloir essayer de comprendre chaque point de données aussi à quoi il correspond. Donc là, on a une idée un peu vague. On a un instrument qui est sur le terrain, mais qui ne mesure pas la manière la plus précise. Et aussi, on n'a pas nécessairement une datation complète. Donc chaque échantillon, on va pouvoir donner une gamme de dates qu'il pourrait avoir, mais on ne sait pas exactement si c'était il y a 1,2 exactement ou si c'est plus ou moins...
Mais pour imaginer, quand même, on peut donner une tendance ou pas ? Parce qu'il y avait quand même des représentants de l'espèce humaine il y a 1,2 million d'années, donc le genre homo était déjà là, donc on peut imaginer que nos ancêtres vivaient dans quel cadre climatique, Amaël Landais ?
Alors, donc, il y a 1,2 million d'années, on voit ces cycles glaciaires-interglaciaires qu'on connaissait déjà depuis les derniers 800 000 ans. Et ce qu'on voit, donc, effectivement, autour de 1,2 million d'années, c'est que ces cycles glaciaires-interglaciaires se reproduisent à des fréquences un peu plus importantes. Et on voit aussi des périodes interglaciaires vraiment chaudes, en fait. Donc, en particulier, il y a une période, un petit peu après 1,2 million d'années, vers notre époque, qu'on appelle un super interglaciaire. Donc ça, on l'a vu très bien enregistré. Et on voit aussi, il semble aussi que les périodes glaciaires, autour de 1,2 million d'années, étaient moins extrêmes, moins froides, on peut dire, que celles qu'on a connues récemment, c'est-à-dire la dernière s'est terminée il y a 18 000 ans avant aujourd'hui.
Ouais. Donc vous restez quand même très... très précautionneuse dans la photographie qu'on pourrait avoir de cette époque, parce qu'à l'échelle du climat, évidemment, il y a beaucoup de variabilité aussi.
Il y a beaucoup de variabilité. Là, on a une photographie, celle dont je vous parle, c'est la photographie en Antarctique, à partir de la température antarctique. Ensuite, il va falloir vraiment faire le lien avec ce qui se passe aux autres latitudes avant de donner une image globale. Et effectivement, comme l'a dit Mathieu Cassado, on reste très précautionneux parce que pour l'instant, on a fait une mesure sur place. Et en fait, il y a une multitude de mesures qu'on va être capable de faire pendant les années à venir en Europe qui vont vraiment nous permettre de comprendre mieux toute cette image du climat il y a 1,2 million d'années.
Laissons donc encore une fois la science faire son travail tranquillement, sans être sous la pression des questions des journalistes ou des animateurs. Et puis dans un instant, on va quand même remonter un petit peu l'histoire aussi de cette science du climat, parce que c'est intéressant de voir comment elle est née, c'est assez récent finalement, et puis voir ce qu'elle nous raconte du réchauffement climatique aujourd'hui.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Ce matin, M. René Coty, président de la République, a reçu à l'Élysée les membres de l'expédition française en Terre Adélie. Ces hommes qui ont risqué leur vie pour les progrès de la science et le rayonnement de notre pays. Débarqués de l'Arcadia hier en provenance de Melbourne, nos explorateurs ont enfin pu serrer dans leurs bras des proches quittés il y a plus de 16 mois. Les héros de la science rentrent au pays. Regardez leur émotion.
Extrait du film La glace et le ciel de Luc Jacquet qui était sorti en 2015. Cette archive pour parler des héros donc de la glace, puisque nous sommes dans les carottes de glace de l'Antarctique aujourd'hui avec nos invités, climatologues et glaciologues, Amaël Landais et Mathieu Cassado. Justement, Amaël Landais, cette histoire scientifique autour de la glace de l'Antarctique, elle commence quand véritablement ? Quand est-ce qu'on a été en mesure de pouvoir vraiment travailler sur ces questions là-bas ?
Sur les questions de carottes de glace. Alors, on a commencé... la glaciologie, elle a vraiment commencé effectivement avec Claude Lorius, qui est allé hiverner, c'était lors de l'année géophysique internationale, en 1957. Il a hiverné pendant un an sur la station Charcot, donc qui est une station un peu à l'intérieur du continent. Oui. Et il a vraiment compris en fait l'intérêt de la glaciologie en Antarctique, c'est-à-dire qu'avant on regardait plus un peu l'atmosphère ou on regardait peut-être la faune en fait sur la base côtière de Dumont-d'Urville, et là il a compris l'intérêt vraiment du matériau glace et de l'utiliser pour reconstruire le climat du passé. Bon, quelque chose que les Danois aussi pensaient faire au niveau du Groenland.
Et après, donc, il a commencé à extraire du coup des carottes de glace déjà. Il y a des opérations à ce moment-là qui ont commencé.
Alors, il y a eu déjà les Français en fait avaient commencé au Groenland en fait déjà dès les années 50 à faire des forages, à faire des premiers forages de glace. Et après, effectivement, ça a été appliqué en Antarctique. Et vraiment, on peut dire la grosse opération de forage hein, qui s'est fait côté français en Antarctique, c'est vraiment déjà Domsay en fait, l'ancien Domsay, 1977-1978, où avec un carottier thermique, peut-être on expliquera tout à l'heure, l'équipe de Claude Lorius a réussi à forer une carotte qui couvrait 900 mètres en une seule saison.
Et donc, au niveau temporel, qu'est-ce que ça représente ?
900 mètres, c'est environ 40 à 50 000 ans avant aujourd'hui.
Donc c'était pas mal déjà.
C'était pas mal en fait. Hein.
C'est
surtout
ça.
De faire 900 mètres en une seule saison. En fait, c'est un bel exploit pour l'époque.
Pourquoi Mathieu Cassado ? Alors, parce qu'il faut parler de la technique. Hein. Quand on fore justement pour extraire ces carottes de glace qui sont des longs tubes hein, en fait, de glace, comment on procède ? Expliquez-nous un petit peu cette pratique-là pour qu'on soit presque avec vous dans les glaces de l'Antarctique.
C'est ça. Donc en fait, c'est très itératif. Finalement, on va avoir un carottier qui est un tube avec des dents qui va venir creuser la glace. Et on va le prendre... selon la longueur du carottier, 2 ou 3 mètres par 2 ou 3 mètres. Et puis après, il faut remonter la glace. Donc au début, ça va vite parce que le tube descend de 2 ou 3 mètres, puis après de 5 ou 6 mètres. Mais en fait, assez vite, on va avoir des centaines de mètres à monter et à descendre. Sur la dernière carotte, 2,8 km. Finalement, le temps de monter et de descendre le tube, on ne veut pas aller trop vite parce que sinon, on risque de bloquer ou de faire tomber. Ça prend de plus en plus de temps. Donc voilà, plus on va loin dans le passé, plus ça prend du temps. Donc après, il y a différentes techniques. Maintenant, il y a même des carottages rapides où en fait, on va détruire une grosse partie de la glace et seulement récupérer les copeaux pour pouvoir aller directement en profondeur. Mais globalement, si on veut vraiment récupérer tous les échantillons et tous les carottages, donc tous nos tubes de glace, à chaque fois, en fait, il va falloir prendre le temps de remonter. Puis, une fois que la glace est en haut, il faut aussi la préparer. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir ces échantillons de glace, il faut les numéroter, il faut mettre une flèche dessus, parce que sinon, en fait, on ne sait plus où est le haut et où est le bas.
Ce qui est ballot, quand même, oui.
il faut bien le numéroter, bien l'empaqueter. Donc il y a une grosse équipe avec une grosse logistique pour être sûr que chaque échantillon de glace est à sa place, est bien rangé et bien numéroté.
Et ensuite, ça part où alors, Amaël Landais ? Qu'est-ce que vous en faites ? Parce que vous disiez tout à l'heure, les carottes de glace d'1,2 million d'années sont sur le bateau là en ce moment.
Oui, elles sont sur le bateau.
Alors, en direction de l'Europe ?
En direction de l'Europe. Elles vont arriver, elles sont sur le bateau, le Laura Bassi, qui est un bateau italien, donc arrivé en Italie normalement en avril. Et ensuite, cette glace va être transportée en Allemagne, à Bremerhaven, donc tout au nord de l'Allemagne, où nous allons en fait... toute la communauté des carottes de glace européennes, nous allons découper ces morceaux de carottes de glace en plein d'échantillons différents pour pouvoir faire les différentes analyses qui sont prévues pour reconstruire un maximum de paramètres climatiques et environnementaux sur cette période.
Est-ce qu'on peut dire que chaque pays a un peu sa spécialité aussi ?
Exactement,
dans des domaines de compétences particuliers ?
Oui, tout à fait, vous avez raison en fait. Donc chaque pays et même chaque laboratoire, en France il y a 4 laboratoires impliqués dans le projet Beyond Epica, a sa spécialité, parce qu'évidemment toutes ces analyses demandent des instruments spécifiques et une expertise spécifique. Donc nous sommes tous très complémentaires.
Oui.
C'est vraiment une science très collaborative, cette science des carottes de glace.
Et les Français, ils sont bons en quoi alors sur les carottes de glace ?
Alors, on est bon... Alors, on est bon en forage. Hein. Il y a une équipe de forage qui est à Grenoble, qui vraiment, depuis l'époque de Claude Lorius, qui a continué à développer son expertise en forage. On est bon aussi sur tout ce qui est l'écoulement de la glace et la datation de la glace, à la fois par des modèles glaciologiques et par des mesures géochimiques qu'on va pouvoir faire au laboratoire. On est bon dans les mesures de chimie, on est bon dans les mesures... d'isotopes de l'eau dont je parlais tout à l'heure. Il y a des mesures aussi d'isotopes cosmogéniques dont vous avez parlé tout à l'heure pour mesurer les inversions de champ magnétique.
Ça, on peut le voir dans la glace. Alors, j'aimerais bien qu'on s'arrête un instant parce que l'inversion du champ magnétique, donc il y a des centaines de milliers d'années, il est enregistré dans la glace.
Oui, il est enregistré de façon indirecte, en fait. Ce qu'on mesure, comme je vous le disais, ce sont les isotopes cosmogéniques, donc notamment ici le beryllium-10, donc qui vient de la haute atmosphère. Et en fait, quand il arrive sur Terre, ce beryllium-10, cet isotope cosmogénique, en fait, son arrivée, elle est modulée par l'intensité du champ magnétique. Et donc, quand on a une inversion de champ magnétique, eh ben, on va moins protéger la Terre de cette arrivée de beryllium-10. Et donc, on va avoir un pic de beryllium.
Il y a des indicateurs indirects qui permettent justement d'en tirer des conclusions sur l'inversion du champ magnétique. Ça joue un rôle justement dans cette question que vous vous posez sur les intervalles d'air glaciaire, interglaciaire autour du projet Beyond EPICA ou pas ?
Alors, pas que je sache, donc ça ne joue pas spécialement de rôle, mais c'est essentiel pour dater, ça va être essentiel pour dater notre glace.
Mathieu Cassado, vous qui travaillez donc sur la question du climat, est-ce que vous essayez aussi de limiter le coût environnemental de ces tonnes de carottes de glace réfrigérées qui ont forcément un coût important? Comment on travaille sur cette question? Est-ce que c'est pas un peu compliqué finalement?
Si, c'est assez compliqué, donc il y a beaucoup de réflexions qui sont faites. Donc il y a une partie des carottes de glace qui est gardée en Antarctique directement, puisque finalement, naturellement, la température reste à moins 50, donc ça fait moins de besoin de chambres cryogéniques en Europe. Après, l'IPEV fait énormément... Donc l'IPEV, qui est l'Institut Polaire Français, qui en tout cas nous emmène à chaque fois qu'on va aller en Antarctique, essaye de faire énormément d'efforts pour limiter les coûts environnementaux. Donc sur place, en fait, tout est recyclé, toutes les déchets vont être ramenés et après retraités, du coup plutôt en Australie. Et c'est vrai que, en tout cas, nous, au laboratoire, on a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de réflexions sur finalement comment on va pouvoir limiter nos empreintes carbone. Donc ça veut dire, par exemple, ne pas y aller pour une semaine et juste faire des campagnes qui vont être les plus complètes possibles pour essayer de faire le plus de travail possible, sachant que une campagne, même si on va vouloir rester là-bas pour travailler 2 mois, sachant qu'il y a déjà pratiquement une semaine pour aller jusqu'en Australie, puis une semaine de bateau, et pareil au retour, en fait, on rajoute pratiquement un mois déjà, rien que sur les transports aller-retour.
Donc c'est une question qui chamboule aussi vos pratiques, j'imagine, directement.
C'est ça, il y a beaucoup de réflexions.
On ne peut pas travailler climat sans soi-même être le plus vertueux, en tout cas essayer de l'être le plus possible.
Exactement, et donc il y a beaucoup de réflexions et beaucoup de débats très intéressés par... Ouais. Beaucoup de membres du laboratoire, et en particulier avec les accords de Villarso, il y avait beaucoup de discussions sur comment on allait pouvoir faire un maximum pour essayer de les suivre au maximum. Après, on a des pratiques hors de l'Antarctique, par exemple, de favoriser le train pour l'émission.
Là, c'est plus compliqué, effectivement, pour aller en Antarctique. Ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps. Amaël Landais, est-ce que, justement, vous êtes amené à vous déplacer souvent sur place, ou est-ce qu'on peut faire beaucoup de choses maintenant en laboratoire depuis l'Europe autour de ces carottes de glace?
Alors, bien sûr, pour aller forer la carotte de glace, il faut aller sur place. Donc là, il y avait une équipe de 16 personnes qui étaient sur place. 16 personnes, là, pour tout le camp, finalement, c'est un petit peu moins de personnes que le nombre de personnes qu'il y avait quand on faisait le projet EPICA Dome C, donc en 2004, qui s'est terminé en 2004. Donc déjà, on a réduit, c'est une équipe plus réduite. Et effectivement, on essaye de faire un maximum de mesures plutôt au laboratoire. De plus, maintenant, les moyens de communication ont quand même été développés depuis les dernières années. Donc il est quand même possible, beaucoup plus facilement... de faire des échanges avec les gens qui sont sur place, donc pour répondre à des questions, pour envoyer des mises à jour de logiciels, des choses comme ça. Donc en fait, on est capable beaucoup plus facilement de réagir pour des instruments qui peuvent être défectueux, des choses comme ça. Et donc, on gagne beaucoup de temps et donc on peut aussi envoyer moins de personnes sur place, effectivement.
On verra avec vous ce que ces carottes nous apprennent de la question climatique aujourd'hui, à Maëlle Landais et Mathieu Cassado. Et puis vous répondrez aux questions qui arrivent sur la page de la Terre au Carré sur franceinter.fr.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Que ce soit dans la calotte glaciaire du Groenland ou que ce soit dans la calotte glaciaire de l'Antarctique, il y a l'enregistrement sur des milliers d'années des changements climatiques qui se sont produits dans le monde. Quand nous faisons un trou en terre Adélie sur la calotte glaciaire de l'Antarctique ou au Groenland au cours de nos expéditions, et qu'on en retire les échantillons de neige et de glace, et qu'on les étudie, du point de vue de la stratigraphie, du point de vue de la physico-chimie de la glace, du point de vue des cristaux de glace, etc., etc., on peut lire ce livre comme on lit les enregistrements météorologiques. Quand on aura la clé d'interprétation de ces phénomènes glaciologiques, on pourra prévoir les changements climatiques qui se produiront un an, trois ans, cinq ans à l'avance.
Voilà, vous avez reconnu sa voix, Mathieu Cassado ?
Claude Lorius ?
Non, Paul-Émile Victor. Voilà, 1963. Voilà, Amael Landais l'avait trouvé, en tout cas. L'Antarctique, d'ailleurs, il évoquait le Groenland aussi, Amael Landais. Est-ce qu'on effectue le même type de forage pour étudier le climat au Groenland, en Arctique, en tout cas, comme on le fait en Antarctique ou pas ?
On fait le même type de carotte. On remonte aussi 3 km de glace, mais on remonte moins loin dans le temps parce qu'il neige plus au Groenland qu'en Antarctique.
Donc les deux terrains sont intéressants de toute façon pour faire parler la science climatique.
Très complémentaires, on pourra y revenir.
Mathieu Cassado, l'Antarctique, est-ce que ça reste un continent protégé aujourd'hui par les traités ? Est-ce qu'on peut, puisque c'est un continent de science, hein, l'Antarctique, on le présente comme ça ?
Tout à fait. Donc y a le traité antarctique qui, pour le moment, est encore d'actualité pour jusqu'en 2048. Je crois.
Oui.
Le SCAR, qui est le comité de la recherche scientifique antarctique, qui essaye de faire appliquer le traité et qui coordonne tous les efforts de recherche en Antarctique. Mais on a quand même une multiplication des stations et on a plusieurs nations qui vont avoir foré aussi pour des raisons stratégiques, d'essayer de voir aussi ce qu'il y a en dessous de la glace. Donc pour le moment, par rapport à l'Arctique, on est dans une situation quand même beaucoup plus calme et avec beaucoup moins de conflits.
Mais il y a beaucoup de ressources aussi sur place, hein, donc beaucoup de convoitises. Hein.
On imagine, on ne sait pas trop encore tout ce qu'il y a en dessous de la calotte de glace.
Ouais, donc une terre pour l'instant, en tout cas, protégé. Est-ce que c'est un lieu du globe qui se réchauffe particulièrement à Amael Landais par rapport aux autres territoires ? Par rapport à l'Arctique, par exemple ?
Moins que l'Arctique, quand même, si on regarde globalement l'Antarctique. En revanche, il y a des régions, effectivement, qui se réchauffent significativement, comme la péninsule Antarctique de l'Ouest, donc cette petite bande de glace là, qui arrive jusqu'à la Patagonie. Mais en fait, tout l'Antarctique se réchauffe. On commence vraiment à voir le réchauffement. Alors, on l'a vu de façon moins évidente qu'en Arctique, mais même la partie Antarctique de l'Est, là où on a cette station Concordia, et donc à côté de laquelle on a ce forage Bayon-Epica, on identifie aussi un réchauffement là.
Mathieu Cassado, ces carottes de glace là de l'Antarctique, qu'est-ce qu'elles nous apprennent du temps présent et de la crise climatique que nous traversons ?
Finalement, elles vont nous fournir un contexte historique un peu plus loin que les stations météo. Donc là, en Antarctique, les stations météo ont été installées à partir des années 50, mais c'était quelques-unes. Maintenant, dans des séries temporelles de stations météo qui vont durer plus de 40 ans, il y en a seulement 27 sur tout l'Antarctique.
Ah oui, effectivement, oui.
Donc à peu près le même nombre que la région parisienne, mais pour un territoire de la taille de l'Europe.
Okay.
Et donc, on va pouvoir utiliser les carottes de glace pour avoir un contexte historique et pouvoir mettre les dernières 50-100 années dans le contexte pandémique. Les dernières années. Donc on va avoir d'un côté les longues carottes comme celle de Bayon-Epica qui vont être pour des échelles de temps plus longues, et on a des carottes plus courtes pour regarder des échelles de temps plus fines qu'on va analyser à plus haute résolution.
Amael Landais.
Oui, et puis quand on regarde même sur les carottes longues, on peut aussi apprendre des choses par rapport au futur, notamment si on regarde les carottes du Groenland dont on vient de parler. Eh bien, on a identifié sur ces carottes du Groenland des événements climatiques extrêmement abrupts avec des augmentations de température de 10 à 15 degrés en 10 à 20 ans. Donc vous voyez quelque chose d'extrême qui s'est reproduit plusieurs fois. Et ça montre vraiment que le climat, c'est quelque chose qui peut être très instable.
Et basculer très vite alors.
On voit ici des points de bascule qu'on a identifiés à partir des carottes de glace, notamment parce que les carottes de glace nous permettent au Groenland de compter les années, en fait, année après année. Donc on a un enregistrement extrêmement précis. Et donc ça, c'est un peu... ce genre de révélation, ça nous montre que le climat est instable, et donc ça nous dit que ça, il faut aussi qu'on l'ait en tête quand on pense au climat futur.
Ces instabilités dont vous parlez, ce sont des instabilités naturelles, entre guillemets, sauf que celle que nous vivons aujourd'hui, elle ne l'est pas autant.
Tout à fait. Non, tout à fait, on est d'accord. Mais en tout cas, ça montre que, de façon même naturelle, le climat peut basculer d'un état à un autre, et ça, il faut... ça peut aussi de choses qui peuvent arriver, ces points de bascule.
On va passer aux questions parce qu'elles sont très nombreuses pour vous. Caroline nous dit ceci, elle vous demande si on trouve des traces de poussière de météorites dans vos carottes glaciaires. Qui veut répondre ? Mathieu Cassado.
Donc, on trouve, en fait, l'Antarctique, c'est un des endroits où on va trouver le plus de poussière. pour des raisons du champ magnétique aussi, en fait, qui fait qu'une partie des météorites vont être déviées là-bas. Finalement, dans les carottes de glace, c'est pas nécessairement là où on va chercher le plus, parce que finalement, on a des échantillons assez petits. Mmh. Et en fait, là, on veut plutôt de la statistique, donc avoir beaucoup de neige et prendre des surfaces assez importantes. Mais potentiellement, dans ce que nous, on va analyser comme des poussières, ça va pouvoir aussi contribuer.
Donc, c'est pas impossible d'en trouver, effectivement, hein.
En Antarctique, on en trouve beaucoup.
Avec ces micro-météorites. Jérémy demande si on sait dire statistiquement l'arrivée de la période de la prochaine ère glaciaire. Est-ce qu'on peut déjà l'anticiper ou pas ?
Alors, c'est une question, ça reste quand même une question ouverte. Mmh. Et effectivement, pour l'instant, on pense que la prochaine ère glaciaire, elle ne va pas arriver demain. Donc, on en a encore pour plusieurs milliers, dizaines de milliers d'années, en fait, de rester en période interglaciaire, en particulier parce que le niveau de dioxyde de carbone qu'on a maintenant dans l'atmosphère est très élevé. Et donc, il y a peu de chances qu'on repasse en période glaciaire.
Factuellement, nous dit Bernard dans un message, les pôles fondent et apportent de l'eau douce dans les mers et océans qui pourraient faire reculer les courants chauds. Cette situation pourrait-elle provoquer la glaciation de la Terre et faire disparaître le réchauffement de la planète ? Et s'il vous plaît, dans combien de temps ? Qui veut répondre, Amaël Landais ?
Oui, alors je vous ai parlé tout à l'heure de ces événements abrupts qu'on a vus au Groenland.
Ouais.
Et ils sont très certainement liés justement à ça, en fait, à des variations de quantité d'eau douce qu'on peut avoir dans l'océan à cause d'une fonte de calotte de glace, pas forcément du Groenland. Hein.
Ouais.
Et donc effectivement, ça peut arriver, mais en tout cas... ce qui est sûr, c'est que si ça arrive, ce serait quelque chose qui n'est pas quelque chose de long terme.
Mmh.
Donc, en fait, on est quand même sur une trajectoire de réchauffement, même si peut-être qu'il y aura une petite interruption locale, pas forcément globale.
Dominique demande comment est-ce qu'on évalue l'âge d'un tronçon dans la carotte de glace, Mathieu Cassado. Rentrons dans les détails.
On va avoir plein de méthodes différentes selon si on est en haut de la carotte de glace ou plutôt en bas. Donc voilà, dans les parties supérieures, on va pouvoir regarder des traceurs volcaniques, par exemple, qui nous permettent de... puisqu'on connaît l'âge de beaucoup des volcans, on va pouvoir retrouver certains des âges. Et après, c'est une des spécialités d'Amaël Landais, mais ça va être plutôt les études des gaz pour qu'on va être plus en profondeur. Et donc, je sais pas.
Si Amaël Landais, un petit mot là-dessus ?
Alors oui, alors on peut avoir des méthodes radiométriques, en particulier l'augmentation de la concentration d'argon 40 dans l'atmosphère. Ça va nous permettre de donner des âges très vieux.
L'argon 40.
L'argon 40,
très
oui.
Bien, très bien.
Alors je vous explique. Donc,
enchanté.
À cause de la désintégration radioactive du potassium dans la croûte terrestre, on a une augmentation de la concentration de l'isotope argon-40 dans l'atmosphère. Et donc, si dans notre morceau de glace, on a très peu d'argon-40, ça veut dire que notre glace, elle est très vieille.
Mm-hmm.
Et si on en a beaucoup, c'est qu'elle est très récente.
Parfait. On a bien compris. Patrice demande, comment se fait-il qu'il puisse y avoir parfois des carottages discontinus puisque les éléments sont retirés bout à bout les uns après les autres ?
Alors... en fait, ils vont faire ces carottages dans des endroits qu'on appelle de glace bleue, qui sont en fait des endroits où la glace, à ces échelles de temps, devient un peu un fluide et donc coule beaucoup. Et donc, en fait, finalement, les morceaux de glace ont été déformés et voire mélangés. Donc, ils vont devoir dater et potentiellement, les morceaux de glace ne seront même pas dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on aura de la glace plus vieille au-dessus de la glace plus jeune. Et
affreux. Ça, c'est terrible. Hein.
Exactement.
Très bien. Pierre demande quel est le diamètre des carottes de glace et pourquoi pas moins ou plus, et le poids de chaque tronçon.
On n'a pas un diamètre déterminé. Ça dépend des carottiers, dépend des équipes et aussi des applications. Donc, il y a des applications où ils ont besoin d'énormément de glace. Ils ont un carottier qui fait 60 cm, je crois.
Ah oui.
Et après, là, nous, en général...
C'est
10 centimètres.
Ouais. Et puis enfin, Gilles demande à Maël Landais, combien de temps est-ce qu'il va vous falloir pour analyser toutes les informations recueillies dans ces carottes glaciaires de plusieurs millions d'années ?
Eh bien, au moins 20 ans. Là, nous travaillons encore sur le forage Épicadome C.
Oui.
Et vous avez dit tout à l'heure que le forage s'était terminé en 2004. Donc oui, on est occupé pour pas mal d'années. Là.
Bon, et pour les futurs, pour les nouveaux chercheurs aussi.
Ah mais oui,
Ceux qui veulent s'engager, il y a du boulot en tout cas.
Il y a du boulot et puis les jeunes travaillent déjà beaucoup en fait, sur cette nouvelle carotte de glace. À mentionner que pour cette saison de forage, il y avait beaucoup d'étudiants, notamment d'étudiants en thèse, qui ont participé à cette saison de forage. Ils étaient contents.
Merci beaucoup en tout cas à Maël Landais et Mathieu Cassado d'être venus au micro de La Terre au Carré. Et merci à Joachim Taïeb qui a préparé aujourd'hui ce dossier. Bon retour à vous. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.